le club de C'est pas du vent sur RFI. Anne-Cécile Bras.
The golden age of America begins right now. America will soon be greater, stronger and far more exceptional than ever before.
Bonjour, l'investiture de Donald Trump et ses conséquences sur l'environnement, c'est évidemment le sujet de la semaine dont nous allons parler avec les journalistes de RFI et d'autres médias. C'est le principe, vous le savez maintenant, du club de C'est pas du vent dans lequel chaque semaine nous faisons le tour de l'actualité environnementale internationale en revenant sur les sujets qui nous ont marqués. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Camille Sarrazin. Bonjour Camille.
Bonjour.
Vous faites partie du réseau de journalistes européens Hunter, qui est un média à destination de la jeunesse européenne fondé par France Média Monde et la Deutsche Welle. Et pour les journalistes maison dans ce studio 41 de RFI, nous accueillons Simon Rosé. Bonjour.
Et bonjour Anne-Cécile.
Chef du service environnement climat de RFI qui fête ses un an pile aujourd'hui. Joyeux anniversaire, on en parlait déjà la semaine dernière, on était un petit peu en avance, mais là voilà, bougies, ronflonflon et tutti quanti. Et avec nous aussi François-Damien Bourgerie. Bonjour.
Bonjour.
De ce même service. Alors en une phrase, de quoi allez-vous nous parler ? Gros suspense, Simon Rosé.
Trump.
Oui.
Et François. Conséquences, bilan et perspectives, ce qu'on peut attendre de la nouvelle administration Trump.
François Damien.
Eh bien Trump également et de ses décisions prises depuis qu'il a été investi 47e président des États-Unis lundi.
Camille.
Trump. Mais je vais vous parler des conséquences sur l'Union européenne et notamment sur le pacte vert.
Nous irons avec le film hip-hop aussi en République démocratique du Congo à Kinshasa où le mauvais état des canalisations et l'accumulation des déchets dans les rues ravagent les terrains de certaines habitations. Et nous parlerons de Trump aussi avec Anne-Sophie Novel qui inaugurera sa nouvelle chronique dans le club de C'est pas du vent, une chronique sur les médias internationaux et leur façon de voir l'actualité environnementale. Vous avez le programme, c'est parti.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Alors, étonnement, affolement, qu'est-ce qui vous a surpris ? On ne parle pas de Trump, là, pendant quelques secondes dans cette émission. Camille Sarrazin.
Ah bah, je vais quand même vous parler de Trump. Et effectivement, cette semaine, c'est plus un affolement qu'un étonnement. Je ne sais pas si vous avez suivi la saga TikTok. Moi, ce week-end, j'ai passé les yeux rivés sur mon téléphone. Je vous le déconseille. Si vous avez une vie et que vous êtes totalement passé à côté de l'info, le réseau social TikTok devait être banni des États-Unis. Et effectivement, pendant quelques heures dimanche, l'application était indisponible pour les Américains. Et puis, gros retournement de situation juste après l'investiture de Trump. Un de ses premiers décrets présidentiels a été de suspendre le ban pour 75 jours. En attendant de trouver une solution un peu plus pérenne. Donc là, on se dit, super, est-ce que la liberté d'expression a gagné ? Non. En fait, pour sauver TikTok, entre guillemets, Trump demande que l'entreprise soit dans les mains d'entrepreneurs américains à 50% minimum. Alors, beaucoup d'internautes ne sont pas dupes et ils croient pas vraiment à ce numéro du grand sauveur. Pour rappel, en 2020, Trump avait en fait été le premier à vouloir interdire l'application, et notamment parce que l'activisme de gauche, qui lui n'était pas très favorable, était plus mis en valeur que sur X ou sur Instagram, par exemple. Et donc, pour le moment, l'avenir de l'application est incertain. Mais Elon Musk, par exemple, a proposé de la racheter, ainsi qu'un autre milliardaire, Larry Ellison. On a aussi beaucoup parlé de Mark Zuckerberg. Et ça, c'est particulièrement inquiétant pour les défenseurs du climat, puisque sur les réseaux sociaux qui sont détenus par les milliardaires pro-Trump, eh bien, la désinformation va bon train, et en particulier sur le climat. Et on sait que sur X, depuis les récents changements d'algorithme, les contenus fiables, par exemple des scientifiques du GIEC, sont beaucoup moins mis en avant qu'auparavant.
Voilà, et c'est un problème globalement, pas que pour le climat, mais aussi pour tous les sujets environnementaux. Simon Rosé, c'est finalement pas si facile que ça de ne pas prendre l'avion.
Oui, toutes les semaines, vous nous demandez une bonne nouvelle, oui. Anne-Cécile. Donc, je me suis creusé la tête, j'ai trouvé.
Bravo.
Vous avez peut-être entendu parler de Gianluca Grimalda, qui est un chercheur en psychologie sociale de 53 ans d'un institut allemand, l'Institut pour l'économie mondiale, qui avait fait une mission de recherche en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et là-bas, donc, il a passé plusieurs mois à travailler avec les populations, notamment les petites populations locales indigènes, et leur a promis que pour rentrer en Allemagne, il ne prendrait pas l'avion. Il en informe son employeur, qui n'a pas aimé. Il dit non, tu rentres, fils.
Oui, parce que ça prend du
parce
temps
que ça
quand
pris,
même.
Bah, ça lui a pris 72 jours, donc il s'est fait renvoyer. Et donc, enfin parvenu en Allemagne, il a contesté son licenciement devant la justice et il a eu gain de cause à moitié puisqu'il demandait sa réintégration dans son institut de recherche, ce qui lui a été refusé. Mais il est dédommagé hein, puisque la justice allemande considère que ce licenciement est abusif. Mais c'est une histoire qui pose plein de questions qu'on se pose nous également, évidemment, journalistes, quand on doit ou pas prendre l'avion pour aller faire des sujets. Mais en tout cas, ce chercheur montre, il avait fait la promesse aux personnes qu'il avait rencontrées en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui sont confrontées aux effets du réchauffement climatique, notamment la montée des eaux, il ne prendrait pas l'avion pour rentrer. Il a tenu parole, donc bravo à lui.
Voilà, mais oui, à quel prix quand même, malgré tout. Mais son tout boulot, cela va évoluer, évidemment, on l'espère, avec le temps. François-Damien Bourgerie, un coup de cœur.
Un coup de cœur, oui, pour la série Families Like Ours, disponible sur la plateforme MyCanal. C'est une série réalisée par Thomas Vinterberg, à qui l'on doit notamment le film Drunk, primé aux Oscars, et qui imagine cette fois son pays, le Danemark, contraint à évacuer sa population face à l'inexorable montée des eaux provoquée par le changement climatique. Alors dans cette série, on suit les membres d'une famille éparpillée en Europe et on découvre toutes les difficultés auxquelles ils font face en tant que migrants. C'est haletant, poignant, et surtout ça nous aide, nous, Européens, à prendre conscience d'une réalité qui pourrait nous paraître lointaine. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a indiqué dans un rapport publié en novembre dernier que les catastrophes climatiques avaient provoqué 220 millions de déplacements internes en 10 ans. C'est 60 000 déplacements par jour. Et selon le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le niveau moyen des océans augmentera de 28 cm d'ici 2100, dans le meilleur des cas. Alors la France ne sera d'ailleurs pas épargnée. Alors que dans le nord et dans le nord-ouest, certains quittent déjà leurs habitations par crainte des inondations, près d'un demi-million de logements pourraient être touchés par la montée des eaux d'ici 2100.
Voilà, une série avec l'effet miroir, c'est évidemment très efficace.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Pour nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr.
Je veux de l'eau propre et immaculée, et je veux de l'air absolument pur, et nous l'avions. Nous avions de l'H2O. Nous avions les meilleurs chiffres de tous les temps, et nous utilisions toutes les formes d'énergie, toutes les formes. Et pourtant, au cours de mes 4 années de mandat, j'ai obtenu les meilleurs résultats jamais enregistrés en matière d'environnement. Et mes meilleurs spécialistes de l'environnement m'ont communiqué ces statistiques juste avant que je n'entre en scène.
Ces propos ont été tenus par Donald Trump le 27 juin dernier. C'était pendant l'unique débat face à Joe Biden. Simon Rosé, ce satisfecit de Donald Trump est-il justifié? Et que représentent réellement surtout les États-Unis aujourd'hui en termes d'impact sur l'environnement?
La meilleure eau, vous pouvez poser la question aux habitants de Flint, dans le Michigan, ville très connue justement pour la pollution en plomb de sa rivière et de l'eau qui n'est carrément plus potable au robinet. Les États-Unis sont un pays, aujourd'hui en matière d'environnement, industrialisé, occidental, donc avec toutes les pollutions atmosphériques des sols qui vont avec. On peut citer peut-être le plus marquant, c'est le secteur très intensif et très développé du fracking, donc de la fracturation hydraulique pour aller chercher des pétroles et gaz non conventionnels, activité qui est très, 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 très polluante. Donc les États-Unis, là-dessus, ne sont très loin, et c'était également vrai durant le premier mandat de Donald Trump, d'avoir la meilleure eau, le meilleur air et les meilleurs sols sur Terre. En matière de climat, les États-Unis, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre historique, ce qui compte pour l'émission des gaz à effet de serre, c'est le stock, c'est combien il y en a dans l'atmosphère. Ce sont les États-Unis qui en ont mis le plus. Aujourd'hui, ce sont les deuxièmes émetteurs derrière la Chine. Une grosse dizaine de pourcents, un gros dixième des émissions annuelles. La Chine, c'est 33%. Les États-Unis n'ont jamais été des champions pour le climat. On l'a vu encore en fin d'année dernière, on a eu ce marathon de réunions internationales avec les COP sur la biodiversité, le climat, la dégradation des sols, sur les négociations pour un traité international contraignant sur la pollution plastique. Les États-Unis ont freiné des cas de fer et on va dire saboté dans toutes les COP. Donc voilà, c'est ça les États-Unis aujourd'hui. Joe Biden avait mis en place des mesures intéressantes, fortes. On parle beaucoup de l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui vise à développer les énergies renouvelables aux États-Unis, mais toujours selon une logique de toujours plus. la sobriété, l'économie circulaire, ce ne sont pas des mots qui sont présents dans le débat public américain. Donc on fait des énergies renouvelables, mais on en fait toujours plus pour produire plus, pour think big. Et à tel point,
plus.
Et à tel point oui. que les objectifs, les émissions de, les la diminution des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis est pas du tout au rythme attendu. En 2023, on était à moins 3% par rapport à 2022. En 2024, on était à moins 0,2. Donc elles ont quasiment stagné. On n'est pas du tout au rythme auquel il faudrait. Donc voilà, les États-Unis sont un des pays majeurs, le pays majeur historiquement en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et pas au niveau de leurs responsabilités.
Et dans les...
Que ce soit sous Joe Biden ou Trump avant ou Obama.
Sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la pollution même en général.
Sur la pollution en général, on le voit encore une fois, comme quand on parlait par exemple du traité plastique, des boîtes comme Coca-Cola, qui sont américaines, sont les premières contributrices au monde en termes de production. Donc,
et une agriculture aussi ultra
productiviste. Une agriculture intensive, des sols. Et oui, des sols américains, encore une fois, pas tout est lié. Les États-Unis sont devenus sous Joe Biden premier producteur mondial de pétrole. C'est la fracture hydraulique, avec toutes ses conséquences également locales en termes de pollution.
Le prochain point concerne notre retrait de l'accord de Paris sur le climat. Nous allons économiser plus de 1 000 milliards de dollars en sortant de ce traité. Le prochain point, monsieur, est la lettre qui sera transmise aux Nations Unies, expliquant que nous nous retirons de l'accord de Paris sur le climat.
C'est violent à entendre cet enthousiasme. François-Damien Burgery, il y a donc, comme nous venons de l'entendre, la sortie de l'accord de Paris signé par Donald Trump.
Oui, et ce n'est pas une surprise. Le décret était dans les cartons depuis des mois. Il ne restait plus qu'à le signer, c'est donc désormais chose faite. Cet accord, on le rappelle, a été conclu sous l'égide des Nations Unies en 2015 et il rassemble la quasi-totalité des États du monde. Il vise à maintenir le réchauffement climatique bien en dessous du seuil des 2 degrés par rapport à l'époque pré-industrielle, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Donald Trump, lui, le qualifie, je cite, « d'escroquerie injuste et unilatérale ». Alors, les États-Unis l'avaient déjà quitté en 2019, lors du premier mandat du président républicain, mais la sortie n'avait été effective qu'un an plus tard, et elle avait été annulée par Joe Biden quelques heures seulement après son arrivée au pouvoir en janvier 2021. Cette fois encore, la décision de Donald Trump ne sera effective que dans un an. Mais sans les États-Unis, les efforts des autres pays du globe pour freiner le réchauffement climatique seront sérieusement ralentis, surtout si certains décident de lui emboîter le pas. Alors la première fois, tout avait tenu bon. Comme le rappelait hier sur notre antenne le spécialiste Sébastien Treyer, cela avait même conduit la Chine, l'Europe, le Japon, la Corée du Sud à être dans une logique d'émulation collective pour décarboner leur économie. Sauf que depuis, le monde a changé et ce front qui s'était constitué lors du premier retrait pourrait bien s'effriter. À moins que la Chine et l'Union européenne parviennent à encourager les autres pays signataires à poursuivre leurs efforts en matière de décarbonation. Les deux puissances ont en tout cas tout intérêt à le faire. La Chine pour continuer à inonder la planète en batteries électriques et panneaux solaires et l'UE pour des questions d'indépendance énergétique.
La crise inflationniste a été causée par des dépenses excessives et une escalade des prix de l'énergie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais également déclarer une urgence énergétique nationale. Nous allons forer, bébé, nous allons forer.
Et oui, le fameux drill, baby drill. Alors Donald Trump a donc... décréter l'état d'urgence énergétique, François-Damien.
Oui, comme il l'avait répété durant sa campagne, Donald Trump a redit lundi sa promesse de forer à tout va pour faire baisser les coûts de l'énergie. Nous redeviendrons une nation riche et c'est l'or noir liquide sous nos pieds qui nous y aidera, a-t-il déclaré. Alors en cela, le 47e président américain ne se démarque pas de ses prédécesseurs, comme l'a dit Simon. L'exploitation du pétrole et du gaz avait déjà augmenté sous Barack Obama et Joe Biden. Et dans l'esprit de Donald Trump, cette hausse de la production doit à la fois passer par une exploitation plus importante des puits existants et par de nouveaux forages qui seraient facilités par des procédures administratives simplifiées. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche envisage notamment de nouveaux projets dans des régions sauvages de l'Alaska et entend également annuler l'interdiction prise par Joe Biden sur le forage en mer.
Mais alors, est-ce que cette hausse est réellement nécessaire ?
Alors, ce n'est pas forcément évident. Les États-Unis sont autosuffisants pour le gaz et en partie pour le pétrole. Mais il va falloir répondre aux besoins des 5 terminaux de GNL, le gaz naturel liquéfié, qui doivent entrer en service d'ici 2029. La chercheuse Anne-Sophie Corbeau, que nous avons interrogée, estime ainsi qu'il va falloir, sous le mandat de Donald Trump, autour de 100 milliards de mètres cubes de production supplémentaire pour répondre à cette nouvelle demande. Concernant le pétrole, cette augmentation de la production est encore moins évidente, compte tenu de l'électrification des véhicules, qui a de bonnes chances d'aboutir. En fait, cet état d'urgence énergétique nationale promis par Donald Trump concernerait surtout les minerais essentiels. Vous savez, ce sont ces matériaux prisés pour leurs propriétés conductrices et magnétiques qui sont indispensables dans l'imagerie médicale, l'armement, les véhicules électriques ou les data centers. Et face aux besoins croissants du secteur de l'intelligence artificielle qui est en plein boom, les ressources dont disposent les États-Unis pourraient vite s'avérer insuffisantes. D'autant que le marché de ces minerais essentiels est aujourd'hui largement dominé par la Chine, et c'est pour se libérer de cette dépendance que Donald Trump lorgne sur les territoires arctiques, notamment au Canada et au Groenland, dont les sols regorgent de ces minerais hautement stratégiques.
Et nous consacrerons d'ailleurs une émission spéciale au cobalt dans ces pas du vent vendredi qui vient. Rapidement, les autres décrets de Donald Trump.
Rapidement, oui, il y en a une flopée, donc on ne va pas tous les détailler. Donald Trump veut notamment annuler les réglementations en matière d'efficacité énergétique pour l'électroménager, mettre un terme à la location des eaux fédérales pour les parcs éoliens offshore, éliminer les programmes de justice environnementale. Il entend aussi développer l'industrie automobile à un rythme jamais vu auparavant, ce sont encore ses mots. Et pour cela, il a révoqué un décret signé en 2021 par Joe Biden, dont l'objectif était de garantir que la moitié des nouveaux véhicules vendus aux États-Unis d'ici 2030 soient électriques ou hybrides, en réduisant progressivement la quantité d'émissions autorisées.
Voilà, et d'autres décrets, mais nous y reviendrons évidemment régulièrement dans nos émissions et avec les journalistes du service environnement. Alors, quel message toutes ces annonces de Trump envoient-elles à la communauté internationale ? Raphaël Morand du service environnement de RFI a posé la question à Frances Colonne, ex-conseillère de l'administration de Barack Obama et experte en politique climatique au sein du think tank démocrate Center for American Progress.
Le message est très explicite. Le message, c'est que les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, renoncent à leur rôle de leader dans le domaine climatique, qu'ils renoncent à tous les engagements qu'ils avaient pris à la table des négociations et aux engagements financiers pour aider les autres pays en développement à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui aggravent le changement climatique. Il s'agit donc d'un renoncement très explicite à ce leadership. Et je pense qu'indirectement, c'est un soutien aux intérêts de l'industrie des énergies fossiles aux États-Unis.
Alors, les États-Unis sont déjà le premier producteur mondial de pétrole. Ils ne réduisent pas suffisamment leurs émissions de CO2. Est-ce que la politique de Trump en matière d'énergie fossile va aggraver cette situation ?
Sous la présidence de Joe Biden, la plus grande loi sur le climat de l'histoire des États-Unis a été adoptée, avec de nombreuses incitations à la transition vers une économie d'énergie propre. Ces incitations sont déjà entre les mains des promoteurs de projets d'énergie propre. La majeure partie de cet argent est déjà utilisée et mise en œuvre. Cela ne peut pas être démantelé. L'argent est là, et pour démanteler ces incitations, il faudrait adopter une autre loi, ce qui est beaucoup plus difficile à faire parce que la plupart de ces projets se déroulent dans des États républicains, dans des États plus conservateurs où des emplois sont créés. Cette partie de la transition vers l'énergie propre, ces réductions d'émissions ne peuvent donc pas être démantelées, elles sont inarrêtables. En revanche, ce que la nouvelle administration Trump risque de faire, c'est d'annuler les décrets et les règlements visant à réduire les émissions de méthane, les émissions des véhicules et les incitations à l'achat de véhicules électriques qui nous ont rapprochés de la réalisation de ces objectifs de réduction des émissions. Mais il existe un engagement au niveau infranational aux États-Unis de la part d'États, de communautés, d'universités. C'est la United States Climate Alliance. Elle a en son sein des gouverneurs, des institutions, des organisations et des communautés. Et elle représente plus de 50% de l'économie et de la population des États-Unis. Donc c'est important que ce groupe s'engage à se rapprocher le plus possible de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui a été présenté en décembre dernier.
Et cet objectif de réduction, c'est entre 61% et 66% des émissions en 2035 par rapport à 2005. Simon Rosé, est-ce que Donald Trump peut vraiment mettre en place tout ce qu'il a annoncé en quelques mots ?
Bah, il s'est donné tous les outils pour. En tout cas, on rappelle qu'il a la Chambre des représentants, le Sénat, donc le Congrès, qui est acquis à sa cause. Et l'équipe avec laquelle il s'est entouré, je vais juste donner deux noms, Chris Wright, le secrétaire à l'énergie, climato-sceptique notoire, ancien pétrolier. Lui, son rôle, ça va être d'accélérer la production de pétrole et de gaz, hein, et couper tous les prêts et subventions aux énergies renouvelables, donc éolien offshore, on l'a entendu. Et Liz Eldin, le patron de l'EPA, donc l'agence de protection de l'environnement américaine, donc sa mission normale, c'est de protéger l'environnement en s'assurant la bonne application des règlements et des normes environnementales, mais Eldin, lui, il a été choisi pour faire valser justement ces règles, une mission que Donald Trump a déclaré vouloir rapide pour libérer le pouvoir des entreprises américaines, tout en maintenant, comme il l'a dit, des normes environnementales tout de même pour avoir l'air le plus pur au monde. Allez, Liz Eldin, à la différence de Scott Pruitt, nommé il y a 8 ans, Scott Pruitt, mon accent anglais, pardon, n'est pas climato-sceptique. Il reconnaît au moins l'existence du réchauffement climatique, donc on va s'en contenter. Après, il y aura une opposition locale. Les États-Unis sont une union d'États, avec, comme on l'entendait dans la bouche de Frances Colonne, des États, des collectivités qui se sont mises ensemble en groupement, en alliance, justement, pour contrebalancer les décisions prises par Donald Trump. Si on prend vraiment le cercle énergie de toutes les collectivités, groupements qui ont déclaré vouloir toujours respecter l'accord de Paris, on est à peu près, je l'ai noté, 63% de la population, les trois quarts du PIB américain, ça représente ça. Il y aura toutes les contestations en justice également, là, si on regarde dans le rétroviseur durant son premier mandat. Toutes les normes anti-environnementales qui avaient été prises par Trump, il y en a un sacré paquet qui a été attaqué en justice. 40% à peu près de ces actions ont donné gain de cause aux défenseurs de l'environnement. Et enfin, il y a toutes les questions économiques. La transition énergétique est en marche aux États-Unis. C'est le troisième producteur mondial de panneaux solaires. Il y a des gens qui se font de l'argent là-dedans. Il y a des gens qui ont investi de l'argent là-dedans.
Il y a des emplois.
Il y a des emplois dans des États républicains. Donc le rationnel économique pourrait faire... Un exemple, Donald Trump, dans son premier mandat, c'était le charbon qui voulait le relancer. Ben, il n'a pas réussi parce qu'il n'y avait pas d'appel économique en faveur du charbon et c'est le gaz qui l'a supplanté.
Voilà, donc méfions-nous des effets d'annonce. Dans un instant, nous verrons comment la presse internationale a réagi à toutes ces annonces justement de Donald Trump grâce à la nouvelle chronique média de la journaliste Anne-Sophie Novel. Mais d'abord, place à la musique sur RFI. Childish Gambino, This is America. We just wanna party.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. Look how I'm geeking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm gonna get it. Watch me move.
This is Zelly. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Ooh. Black. Ooh, know that. Yeah. Ooh. Get it. Get it. Get it. Get it. Work it. Yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, 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 contraband. I got the plug on with a hawker. Whoa. They gonna find you like Baka. Blah.
C'était Childish Gambino, This is America sur RFI. Bonjour Anne-Sophie Novel.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Vous êtes journaliste, vous travaillez depuis plus de 10 ans sur les liens entre médias et écologie. Et chaque mois, vous décortiquerez pour nous la manière dont la presse internationale parle des enjeux environnementaux. Alors cette semaine, au cas où les auditeurs ne l'auraient pas compris, un sujet s'impose. This is America, avec l'investiture de Donald Trump. Que dit la presse ?
Alors, vous le savez, hein, ridicule, injuste, désastreux, ce sont des adjectifs qui reflètent peut-être ce que vous ressentez face aux annonces du nouveau président américain depuis l'arrivée, son arrivée à la Maison-Blanche. Mais ces adjectifs sont aussi ceux qu'il utilise quand il parle d'écologie. Et à vrai dire, ces annonces en la matière n'ont surpris personne. Mais je ne vais pas m'attarder sur ces mesures que vous avez déjà bien présentées. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette manière dont les médias analysent et présentent les conséquences écologiques de ce nouveau mandat.
Alors que disent-ils? Quels angles privilégient-ils? Et qu'est-ce que cela révèle de nos propres priorités?
Alors, si on prend la sortie des accords de Paris, hein, comme le dit Le Monde, c'était attendu, mais ça a quand même constitué une épreuve pour l'action climatique. Pour Trump, l'accord de Paris fait partie d'un ensemble d'accords internationaux qui ne reflètent pas les valeurs américaines. Mais l'Associated Press souligne quand même qu'environ la moitié des Américains s'opposent quelque peu ou fermement à la décision de retirer les États-Unis de l'accord de Paris, notant même que les Républicains ne sont pas massivement favorables à ce retrait. Le média spécialisé Carbon Brief, quant à lui, a expliqué et chiffré le retour en arrière promis par ce président qui limite la baisse des émissions américaines et pourrait entraîner 4 milliards de tonnes d'équivalent CO2 supplémentaires d'ici à 2030 par rapport aux politiques de Joe Biden, soit les émissions annuelles de l'Europe et du Japon. D'autres publications ont adopté un ton plus politisé, comme Politico, l'AFP ou Bloomberg, qui craignent, eux, un effet de contagion, que d'autres pays se mettent aussi à sortir de l'accord de Paris. Mais les experts interrogés assurent que le processus multilatéral est solide et que les retombées économiques de l'action climatique empêcheront d'autres pays de faire de même. Et voilà, le New York Times, chose intéressante, rapporte que Trump est le premier président, à déclarer une urgence énergétique nationale, bien que les États-Unis produisent actuellement plus de pétrole et de gaz que tout autre pays. La presse au Canada souligne par ailleurs que les compagnies pétrolières ne le suivront peut-être pas autant dans le drill baby drill, ce mantra, parce que pour ExxonMobil, Chevron et d'autres producteurs indépendants, l'ambition de produire coûte que coûte n'est pas aussi importante que de vendre leur propre pétrole à un prix élevé pour dégager des profits. Donc, concernant sa décision de suspendre temporairement les ventes de concessions éoliennes en mer dans les eaux fédérales, Reuters, lui, souligne que cet ordre ne devrait pas affecter les projets existants de parcs éoliens offshore. Et enfin, de son côté, TV5 Monde souligne l'absence totale de prise en compte des enjeux africains. Courrier International relève même que l'Afrique ne sera pas un enjeu majeur pour l'Amérique sous Trump, pas plus qu'elle ne l'a été pendant le premier mandat de ce président isolationniste qui avait qualifié les pays africains de trous à rats.
Alors tout cela est très orienté climat. Anne-Sophie, est-ce que vous avez trouvé des angles un peu plus inattendus ?
Oui, mais à vrai dire, peu de médias ont analysé en profondeur les conséquences sociales des décisions de Trump, notamment sur les populations les plus vulnérables ou sur les agriculteurs américains. En ce sens, Sentient Media, qui est un média basé en Californie, rappelle que les politiques anti-immigration de Trump visant à réduire la main-d'œuvre immigrée risquent de causer une pénurie de travailleurs agricoles. Cette situation pourrait augmenter les coûts de production et les prix des produits. Le problème, c'est que Trump veut imposer des droits de douane sur les importations agricoles, aggravant les tensions commerciales et impactant les prix. Le papier évoque aussi le Farm Bill qui sera étudié en 2025 et plusieurs craintes pointent le bout de leur nez concernant les objectifs environnementaux et les conditions de confinement extrêmes pour les animaux. J'ai aussi trouvé de beaux papiers avec des angles différents, à commencer par le Guardian qui s'est intéressé à un sujet peu abordé, les effets du mur frontalier sur la faune. Parce que les corridors naturels naturelles des espèces animales sont coupées avec le mur qui est érigé, fragmentant les écosystèmes qui sont déjà fragiles. Donc c'est une approche originale qui rappelle que l'écologie ne se limite pas qu'au climat. Et j'aimerais aussi parler du journal suisse Le Temps, qui a choisi d'insister sur l'avènement d'une oligarchie peu concernée par l'écologie, en relayant notamment le dernier rapport de l'ONG Oxfam, qui a été publié lundi à l'occasion de l'ouverture du sommet de Davos. On y souligne que les politiques défendues par le président Trump devraient faire flamber les inégalités et que les hommes de la tech présents à l'investiture lundi possèdent aujourd'hui plus de richesses que la moitié la plus pauvre de la société américaine, comme l'a rappelé Bernie Sanders, qui est quand même une figure de la gauche aux États-Unis. Et le Figaro, lui, en profite pour nous dresser le portrait des fidèles qui ont été nommés au gouvernement Trump, donc des avocats, sénateurs, gouverneurs, financiers, milliardaires et autres stars de la télé-réalité qui seront chargés de dérouler un programme économique dont les grands axes sont déjà connus. C'est en fait conforme au projet 2025 de l'Heritage Foundation, sur lequel revient aussi Mediapart, en soulignant que l'allégeance à ces figures à Donald Trump s'explique par l'évolution de l'économie de la tech et de ses velléités climaticides, nous poussant à consommer sans cesse alors que nous n'en avons pas besoin. Tout cela reflète un impérialisme prédateur, indique Karine Fonto dans son parti pris, dénonçant le techno-optimisme profondément ancré dans le désir d'énergie illimitée, inséparable du capitalisme fossile au cœur de l'organisation des économies occidentales. Donc la journaliste reprend aussi une citation du philosophe Bruno Latour qui mettait en garde contre l'alliance des fake news et du climato-négationnisme. Bruno Latour posait cette question: comment respecter les faits les mieux établis quand on doit dénier l'énormité de la menace et mener sans le dire une guerre mondiale contre tous les autres? Il nous manque, à mon sens, le temps où nous avions un socle de réalité commune, et c'est donc personnellement ce qui m'inquiète le plus, le risque de prolifération des fake news qui discréditent les scientifiques, et cela nous rappelle à quel point le rôle des médias est plus crucial que jamais.
Merci beaucoup Anne-Sophie Novel. Je signale aux auditeurs que vous rédigez aussi tous les mois la newsletter Planète Investigation de Disclose, qui met en avant des enquêtes sur des crimes environnementaux à travers le monde. Il suffit de s'abonner et c'est gratuit. Merci Anne-Sophie. Ah, vous êtes déjà parti. Simon Rosé, une réaction à cette revue de presse très complète.
Pour aller dans le sens de ce que disait Anne-Sophie Novel, et notamment sur les fake news, les attaques aux faits, les attaques contre la science, qui sont également un des gros marqueurs de l'administration Trump et de Donald Trump lui-même. Et je prends un exemple tout juste dans les plans annoncés dans ce qu'il est attendu de la part de cette administration. Ce sont les attaques contre la NOAA, donc, qui est l'agence américaine d'études de l'océan et de l'atmosphère. Et c'est notamment la NOAA qui est en charge du service public de météo aux États-Unis, avec un projet annoncé de démantèlement et de revente au privé de la cartographie météo. Et on retombe sur les agriculteurs, puisque s'il y a bien une partie de la population qui a besoin de données météo fiables et accessibles, ce sont les agriculteurs. Donc il va y avoir des conséquences là-dessus. Mais de manière générale, la NASA, qui a la plus grosse part du budget de la NASA, c'est l'étude de la Terre, l'étude du climat, ce qu'on appelle l'observation de la Terre dans le domaine du spatial, qui est nommé maintenant à la tête de la NASA, Jared Isaacman, très proche d'Elon Musk, très proche de Donald Trump. Donc les crédits accordés à l'étude du climat par l'agence spatiale américaine, agence publique encore une fois, sont sérieusement menacés. Il faudra voir comment ça se passe devant le Congrès.
Et oui, tout cela est évidemment à suivre de près. Je vous propose de partir en République démocratique du Congo maintenant avec la chronique hip-hop pour Petites Ondes Participatives. Ça va nous aérer un petit peu la tête après toute cette séquence trumpesque. Je vous propose donc de partir en République démocratique avec ces... en République démocratique du Congo, avec cette chronique de Caroline Filliette.
Aujourd'hui, direction la République démocratique du Congo et plus précisément à Kindele, quartier de Kinshasa, où nous partons à la rencontre de Jean-Pierre. Ce dernier déplore l'érosion galopante du terrain sur lequel il vit. Ce reportage hip-hop intitulé « Danger sous la falaise » a été réalisé par Grégoire Beaumont et nous allons en écouter un extrait.
Je m'appelle J.P. Yomi, ça fait 7 ans que je vis ici. Cette érosion destructrice date de 4 ans. Toutes les maisons qui étaient aux alentours sont tombées, y compris la mienne. L'eau se précipite ici avec une pression incroyable, elle emporte facilement les gens. Les gens meurent ici. Ce matin, la terre s'est écroulée sur deux écoliers et les a complètement ensevelis. La personne qui est venue à leur secours s'est également retrouvée prise au piège. Heureusement, ils ont pu être sauvés et sont actuellement à l'hôpital. Les gens éprouvent de graves difficultés pour traverser et surtout les écoliers qui habitent de l'autre côté du quartier. Nous n'avions jamais habité dans des hangars, mais depuis que nos maisons ont été emportées, nous n'avons plus le choix. Beaucoup de gens meurent ici, alors quand il pleut la nuit, il est impossible de dormir. Nous avons très peur, nous sommes angoissés, terrorisés. Nous assistons à des scènes d'horreur. L'eau fait un bruit effroyable, c'est terrifiant. Certaines personnes qui ont perdu leur maison habitent maintenant dans des églises parce qu'elles n'ont pas les moyens de louer une maison. La cause principale de cette érosion est l'état des canalisations que les immondices bougent très souvent. Les gens jettent des déchets partout et ils se retrouvent dans les caniveaux. Alors ils n'arrivent plus à contenir les eaux de pluie et l'eau se précipite dans les avenues et détruit tout sur son passage. Pourtant, si les gens effectuaient une gestion convenable des déchets, qui bouchent aujourd'hui les canalisations, nous pourrions éviter tous ces drames.
Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous présenter ce film. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le témoignage de Jean-Pierre ?
Ce qui m'a particulièrement touché dans les témoignages de Jean-Pierre, qui est un chef de rue, et sa capacité à articuler les désarrois de sa communauté tout en étant lui-même une victime car une grande partie de sa propre maison a été emportée par l'érosion. Donc, ses émotions véhiculées à travers ses mots sont poignantes. On ressent clairement dans ses propos l'angoisse engendrée par la situation difficile que traverse son quartier. De plus, ce qui m'interpelle dans son témoignage, c'est les cris d'alarme remplis des désespoirs qu'il lance afin de trouver rapidement des solutions pour pallier ces problèmes et limiter les dégâts au plus vite.
Alors, au-delà du témoignage de Jean-Pierre, qui est poignant, comme vous le dites, les images de votre film, elles sont vraiment saisissantes. On voit bien que le terrain sur lequel vit Jean-Pierre est complètement affaissé. Quelles sont les raisons de cette érosion, Grégoire ?
Premièrement, je dirais que la principale cause de cette érosion est la mauvaise canalisation des eaux de pluie. Lorsque ces eaux ne sont pas correctement dirigées, elles suivent leur propre chemin à travers les sols et leur pression, parfois intense, entraîne des érosions qui s'aggravent avec le temps. Deuxièmement, la ville génère plusieurs tonnes de déchets au quotidien. Mais elle ne dispose pas à ces jours d'une politique efficace d'assainissement et de gestion des déchets. Donc, les ordures se retrouvent un peu partout et les caniveaux ainsi que les cours d'eau sont devenus des lieux où la population se débarrasse de ces immondices. Donc, sachets, bouteilles en plastique. Par conséquent, les rares canalisations existantes ne permettent pas un passage adéquat des eaux de pluie. Troisièmement, je pense qu'il est crucial de souligner que le non-respect de certaines règles d'urbanisme constitue une cause majeure des érosions en général. La population s'installe sur des terrains dangereux et peu recommandables. Donc, ces terrains-là, à mon avis, sont à classer parmi les zones à risque. Et enfin, on constate une augmentation vraiment significative de la population et des ménages. Tant qu'il n'y ait des réflexions solides sur l'adaptation du plan d'urbanisation des quartiers.
Merci beaucoup Grégoire pour cet éclairage.
Merci beaucoup Caroline, c'était un plaisir.
Merci Caroline et merci à Gaëlle Flaugère qui anime la communauté hip-hop avec Max Ball de RFI Planète Radio et les chercheurs de l'IRD, l'Institut de la Recherche pour le Développement. C'est vrai que gérer les eaux de pluie et les déchets nécessite des investissements urgents dans de nombreuses villes du Sud. Nous en parlons souvent dans C'est pas du vent. Dans un instant, nous verrons si l'Union européenne s'organise pour riposter à la politique de Donald Trump. Mais un petit tour aux États-Unis encore et à nouveau, mais avec un peu de plaisir cette fois avec les Pussy Riot Make America Great Again dans C'est pas du vent. What do you want your world to look like? What do you want it to be? Do you know that the wall has two sides and nobody is free? Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Sneaking all through Syria, crossing all the borderlines. Let
other people in. Listen to your women. Stop killing black children. Make America great again. Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children. Make America great again. Da-dum, da-da-dum, da-da-da-da. Da-dum, da-da-dum, da-da-da-da. Could you imagine a politician calling a woman a dog? Do you wanna stay in the kitchen? Is that where you belong? How do you picture the perfect leader? How do you want him to be? Has he promoted the use of torture and killing families? Did your mama come from Mexico? Papa come from Palestine? Sticking all through Syria, crossing all the borderlines. Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children. Make America great again. Let other people in. Listen to your women. Stop killing black children. Make America great again. Da-dum, da-da-dum, da-da-da-da-da. Da-dum, da-da-dum, da-da-da-da-da. Da-dum, da-da-dum, da-da-da-da-da. Da-dum, da-da-dum, pa-pa. Did your mama come from Mexico?
C'était les Pussy Riot, Make America Great Again dans C'est pas du vent.
R.F.I.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Camille Sarrazin, vous travaillez sur le réchauffement climatique, mais aussi sur l'Europe pour le Média Hunter, un média à destination de la jeunesse européenne, qui a été fondé par France Média Monde et la Deutsche Welle. Alors, Donald Trump va aussi être un défi pour l'Union européenne. Hein. Oui. L'Union européenne est très mauvaise pour nous, a-t-il affirmé hier, tout en annonçant des droits de douane pour les pays européens. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ?
Oui, donc après avoir attaqué la Chine avec beaucoup de virulence, c'est au tour de l'Europe de subir les foudres du nouveau président américain. Et Donald Trump n'est pas content. Il trouve qu'on traite mal les États-Unis, on ne veut pas de leurs produits agricoles ou de leurs voitures. Et en fait, on comprend vite qu'il a dans le viseur notamment la France, qui a une forte production agricole, et l'Allemagne et sa puissante industrie automobile. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le lobby des constructeurs automobiles européens avait anticipé. Dès le 16 janvier, donc 4 jours avant l'investiture, ils avaient supplié l'UE d'éviter une guerre commerciale avec les États-Unis.
Alors les auditeurs se demandent peut-être quel rapport avec le climat.
Oui. Eh bien, ce lobby automobile en profite pour demander plus de flexibilité dans la politique de lutte contre le changement climatique et pour tacler le fameux pacte vert. Le pacte vert, qu'est-ce que c'est ? C'est un paquet de mesures qui a pour ambition d'atteindre la neutralité carbone en Union européenne d'ici 2050, avec un premier objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Et donc pour ça, l'UE a adopté des mesures pour contraindre l'industrie automobile à réduire ses émissions. Là, par exemple, depuis le 1er janvier, les constructeurs doivent réduire les émissions de dioxyde de carbone de leurs véhicules de 15% par rapport à ceux immatriculés en 2021, avec à la clé des sanctions. Alors, les attaques de Trump sont une bonne occasion pour ce lobby de demander soit un meilleur accompagnement, soit carrément un affaiblissement des réglementations.
D'un côté, les attaques de Donald Trump inquiètent. De l'autre, elles représentent donc aussi une bonne opportunité pour les lobbies qui souhaitent affaiblir ce pacte vert.
Exactement. Et ça, j'en parlais justement déjà avant que Donald Trump soit élu dans le podcast d'Enter qui s'appelle Studio E, à avec une jeune activiste, Chloé Mikolajczak, alias The Green Monkey sur les réseaux. On l'écoute.
Bruxelles est la deuxième ville au monde où il y a le plus de lobbies. La première, c'est Washington, et la deuxième, c'est Bruxelles. On estime autour de 30-35 000 personnes qui travaillent à Bruxelles et dont le rôle est d'influencer les politiques qui sont décidées. Donc en fait, le rôle des lobbies, il a un impact énorme, mais vraiment énormissime, on s'en rend pas compte. Et c'est aussi pour ça que sur plein de sujets, il y a un manque d'ambition énorme, c'est que ces entreprises et ces industries, elles sont hyper présentes à Bruxelles, et elles vont tout faire, parfois même utiliser des méthodes qui sont vraiment dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot, pour faire en sorte qu'on soit le moins ambitieux possible sur des sujets qui pourraient affecter leur chiffre d'affaires.
Alors pour le moment, Camille, est-ce qu'il y a des réactions au niveau des institutions européennes ?
On en parlait tout à l'heure avec la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. La réponse de l'Union européenne va être cruciale. Il y a la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a donné un discours au forum de Davos. Alors sans jamais explicitement mentionné Trump, elle a appelé l'Europe à rester unie. Et alors que les États-Unis, comme je le disais, se retirent une nouvelle fois de l'accord de Paris, pour elle, il demeure au contraire, je cite, « le meilleur espoir de l'humanité tout entière ». Mais elle n'est pas à quelques contradictions près, puisqu'elle a aussi appelé à faciliter nettement l'activité des entreprises dans toute l'Europe, et notamment en simplifiant les réglementations au sein du marché unique. Donc ça ne... Tout n'est pas si simple. Et puis, il faut aussi rappeler qu'en Europe, il y a de plus en plus de partis conservateurs au pouvoir qui sont carrément favorables à Trump. On peut citer Giorgia Meloni en Italie. Et puis, avec la montée des mouvements populistes en Europe, il y a eu des offensives contre les politiques climatiques au Parlement européen. Et ça, c'était déjà bien avant le retour au pouvoir de Donald Trump. Encore une fois, on en a discuté avec Chloé, qui, en tant qu'activiste, l'a vécu aux premières loges.
Je pense qu'en fait, ça faisait partie de leur stratégie pour les élections européennes. Ils ont dit, il nous faut un sujet qui va vraiment, sur lequel on va pouvoir balancer plein de fake news, en gros, où on va pouvoir exagérer des trucs. Et en fait, ils se sont dit, ça va être l'écologie en règle générale, et donc le pacte vert notamment. Et donc, pendant un an et demi, petit à petit, ils ont déroulé leur stratégie. Donc, ça a commencé avec la loi de la restauration de la nature. Puis, c'est continué avec le mouvement des agriculteurs, où on a entendu, mais vraiment, tout et son contraire. Et c'est ce qui leur a permis, pendant la période des élections, de dire vraiment, faut pas voter pour des partis qui soutiennent l'écologie.
En conclusion, Camille ?
En conclusion, le pacte vert, ça pourrait être une force pour l'Europe, y compris économiquement, pour se positionner face aux États-Unis, face à la Chine. Mais il va falloir faire très attention à l'impact des lobbies industriels et des conservateurs européens qui pourraient l'affaiblir.
Simon Rosé, une réaction ?
On est en plein dedans. On le voit par exemple, donc le PPE, le groupe des partis conservateurs européens, dont fait partie Ursula von der Leyen. On l'a vu avec la loi contre la déforestation importée, règlement qui devait entrer en vigueur en décembre dernier et qui a été repoussé, avec le risque d'être allégé finalement, on a échappé à ça. Et sur le pacte vert, le PPE est en ce moment en train de discuter de mesures justement pour l'atténuer. Par exemple, il y a toutes les questions sur les taxes sur les importations de l'acier notamment, qui doivent s'appliquer, qui vont pas tarder à s'appliquer, eh bien le PPE fait du forcing en ce moment justement pour limiter ça sur les crédits carbone, sur les quotas carbone, pardon. Tout ça, et en ce moment même, alors que Ursula von der Leyen fait des beaux discours à Davos, elle fait tout le contraire en coulisses avec le PPE, alors qu'il y a des grosses échéances européennes qui arrivaient. Il y avait le pacte vert lors de la précédente législature. Là, c'est le pacte industriel vert qu'on attend.
Voilà, et que vous suivrez de près, évidemment, avec le service environnement climat de RFI. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation. Et écoutez, prenez soin de vous, des vôtres et du monde. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.